VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du mercredi 7 décembre 2022. Coupe du monde de football, ce mercredi, les équipes encore en lice se reposent et se préparent pour les quarts de finale qui débutent vendredi. Dans l'est de la RDC, le M23 envisage un retrait des localités conquises.
Ils nous écoutent aussi, puisqu'ils ont écouté le gouvernement, mais ils ne nous ont pas écoutés. Mais nous sommes tellement prêts qu'ils puissent nous écouter. Et pour les désengagements, nous sommes prêts à les faire, messieurs.
Willine Goma, porte-parole militaire du M23, que nous retrouverons dans la partie magazine. En Tunisie, les boulangers sont en grève pour réclamer les subventions de l'État. En Iran, les manifestants obtiennent le soutien de l'ancien président Ali Khatami et celui de la sœur du guide suprême de la Révolution. Au Sénat américain, les démocrates remportent un nouveau siège et confortent leur majorité. Bonsoir, bienvenue. On commence par le spécial Coupe du Monde avec Eric Manirakiza.
Bonsoir, Roger.
Oui, bonsoir Eric. Nous avons le programme complet des quarts de finale du Mondial 2022 de football après la qualification hier mardi du Maroc face à l'Espagne et du Portugal face à la Suisse.
Le Brésil et la Croatie vont lancer vendredi cette seconde phase des matchs à élimination directe le même jour dans la soirée. L'Argentine de Messi sera opposée aux Pays-Bas. Le lendemain samedi, le Maroc, dernière nation africaine en compétition, affronte le Portugal. Puis la confrontation entre la France, championne du monde en titre, et l'Angleterre complète le tableau final. Le Maroc et le Portugal sont les seuls du top 8 à n'être jamais entrés en finale d'un mondial.
Les Lions de l'Atlas deviennent le quatrième quart de finaliste du continent après le Cameroun en 1990, le Sénégal en 2002 et le Ghana en 2010.
Un exploit qui a fait rougir les travées du stade Education City à 90% marocaine pour ce premier mondial dans le monde arabe. Notre consultant sportif Amine Birouk se trouve à Doha au Qatar. Il revient sur le parcours de l'équipe du Maroc.
Lorsqu'il a été nommé à la tête des Lions de l'Atlas le 31 août dernier, en remplacement de Vaïdali Luzic, Walid Regragui ne s'était nullement engagé devant l'opinion publique marocaine à un quelconque objectif chiffré pour le Mondial 2022. Il avait préféré néanmoins parler d'une participation positive et d'un rendement honorable. Pour atteindre ce but, Regragui avait opté pour le rappel de toutes les forces vives du football marocain, y compris les bannis Ziyech Mazraoui et Hamdallah. Depuis lors, le Maroc a disputé 3 rencontres amicales et surtout 4 matchs de Coupe du Monde, avec un bilan exceptionnel de 4 victoires et 3 matchs nuls. 9 buts inscrits et un seul concédé, surtout la meilleure participation de l'histoire du Royaume chérifien au Mondial, avec cette qualification historique en quart de finale. Une qualification dont les contours ont commencé à se dessiner dès la rencontre initiale contre la Croatie, vice-champion du monde en 2018. Organisée dans un 4-1-4-1 à vocation prudente, les Marocains ont su décrocher le point du nul. Un résultat qui allait dissiper tous les doutes et lancer le groupe dans une dynamique très positive, comme en attestent les deux rencontres suivantes devant la Belgique 3e en 2018 et le Canada, meilleure sélection nord-américaine en 2021-2022. Deux succès, 2-0 et 2-1 pour un collectif efficace et rigoureux. Et voici le Maroc qualifié pour la deuxième fois de son histoire pour le second tour de la compétition. Les coéquipiers de Romain Saïss avaient alors un plafond de verre à dépasser. C'est désormais chose faite avec un match héroïque contre l'Espagne, ponctué d'une qualification au tir au but pour les quarts de finale. Et la question qui s'impose pour la suite est la suivante. Où et quand s'arrêtera l'aventure de ce groupe qui a su fédérer autour de lui ? En tout cas, au vu de la détermination du coach Regragui et de ses hommes, la réponse n'est pas facile, tant ce groupe a faim et vise à aller le plus loin possible dans un mondial où le Maroc fait figure de porte-drapeau de l'Afrique et du tiers-monde. Depuis Doha au Qatar, Amine Birouk pour la VO Afrique.
Et les Marocains ont maîtrisé l'Espagne en respectant le plan de leur sélectionneur Walid Regragui. Pour analyser son système de jeu séduisant depuis le début du tournoi, nous avons joint Abguenigan Amouzou, dit coach Fofo, ancien international togolais et fondateur, encadreur au centre de formation de football ESIDA dans le Maryland, ici aux États-Unis.
Là, je veux parler, en tant que aussi entraîneur et aussi joueur, je veux parler de la confiance établie. Parce que c'est vraiment pas impossible de prendre une équipe à 3 mois. d'une compétition à haut niveau et de manifester ou de produire ce qu'il est en train de produire. Il s'est arrivé, il s'est établi une confiance totale. Je crois que les joueurs l'ont adopté, les joueurs l'ont aimé, ils l'écoutent, ce qui fait que là, on voit cette différence aujourd'hui sur le terrain. Parce que ce que moi j'ai vu hier comme match, ça m'a ébloui parce que les Marocains étaient vraiment des lions de la classe. Ils ont joué avec le cœur. Ils étaient sur le terrain, s'entraider, se souder. Ils n'ont pas donné aucun espace à cette équipe d'Espagne pour faire une différence. Donc, ce qui a fait que, vraiment, quand tu vois une équipe soudée comme ça sur un terrain, mais les dieux de football aussi sont avec eux, c'est ce qui a donné la victoire aux Marocains hier. Et c'était un match fantastique. C'était pas clair, clair, mais ils savaient pourquoi ils étaient là. Ils ont arraché cette victoire au pénalty.
Premier pays d'Afrique à sortir des poules en 1986, les Marocains ont fait mieux que la génération Badouzaki-Méry Crimo, arrêtée par la République fédérale d'Allemagne. 1-0, c'était au Mexique. Et 36 ans après, Jean-Roger, le Maroc a beaucoup de nouveaux héros à fêter.
Page de sport signée Eric Manirakiza. Dans le reste de l'actualité, le M23 se dit prêt à commencer à se désengager et se retirer des zones sous son contrôle dans l'est de la République démocratique du Congo, Eddy Sango.
La rébellion du M23 demande dans un communiqué une rencontre avec la force est-africaine et les mécanismes ad hoc de vérification pour discuter des modalités d'un retrait. Le M23 réitère aussi sa demande de dialogue direct avec le gouvernement congolais. Les rebelles disent observer un cessez-le-feu qui a tenu quelques jours, mais aucun retrait n'a été observé jusqu'à présent. Kinshasa refuse de discuter avec ces mouvements qu'il qualifie de terroristes tant qu'il ne s'est pas retiré de ses positions. Le M23 n'a pas participé à la nouvelle session des pourparlers qui s'est achevée mardi à Nairobi. Des violents affrontements ont opposé mardi le M23 à la milice APCLS ou Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain. Nyatura et les FDLR, les rebelles Hutu-Rwandais, affrontements qui ont provoqué un déplacement massif des populations et la paralysie des activités dans la ville de Kichanga. Selon certaines sources, l'armée congolaise a aussi combattu les M23 vers Bouiza, à quelques 40 kilomètres au nord d'Igoma.
Les États-Unis ont déclaré ce mercredi interdit l'octroi de visa à tous les actuels et anciens responsables soudanais qui entravent la transition démocratique afin d'encourager les négociations pour un accord entre civils et militaires. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a aussi fait part du soutien américain à l'accord cadre de sortie de crise conclu lundi entre civils et militaires soudanais que certains manifestants pro-démocratie ont toutefois considéré comme trop vague et ne fixant que peu d'échéances quant à la transmission effective du pouvoir depuis le putsch d'octobre 2021. 11 proches du pouvoir au Mozambique, dont Ndambi Guebuza, fils de l'ancien président Armando Guebuza, ont été condamnés aujourd'hui à des peines de prison ferme dans le gigantesque scandale de corruption dit de la dette cachée qui avait plongé le Mozambique dans une grave crise financière. Le procès a duré 7 mois. Les plus grands coupables dans l'affaire sont l'ancien chef du renseignement et de la sécurité de l'État, Gregorio Leao, et l'ex-patron du renseignement économique, Antonio de Rosario, condamnés chacun à 12 ans de réclusion. En Tunisie, des milliers de boulangeries ont observé une nouvelle grève ce mercredi pour réclamer le versement des compensations qui leur sont dues au titre de subventions de l'État. Les détails avec Nani Talani.
Plus de 3100 boulangeries, soit près de 90% qui sont censées bénéficier des aides étatiques, ont répondu à l'appel de la grève de la Chambre syndicale nationale des propriétaires de boulangeries. Ils réclament le versement de 14 mois de subventions non payées, estimées à 78 millions d'euros, indique le chef de ce syndicat, Mohamed Bouanane. Nous poursuivrons notre grève puisque nous n'avons reçu aucune réponse positive de la part du gouvernement, a-t-il ajouté. Les boulangers affirment qu'ils ne peuvent plus continuer à travailler car ils sont incapables de payer leurs ouvriers et toutes leurs charges. Selon le syndicat, le gouvernement s'est borné à promettre de verser progressivement à partir de janvier les compensations dues. À la fin d'octobre, une grève similaire a été organisée avant d'être suspendue. Le gouvernement avait promis de verser les aides sur 4 mois, soit l'équivalent de 23,5 millions d'euros, mais cet accord est resté lettre morte. Cependant, près de 1 200 boulangeries qui ne sont pas concernées ont fonctionné normalement ce mercredi.
Le chef du gouvernement de Sao Tomé et Principe, Patrice Trovoada, a évoqué des exécutions extrajudiciaires après la tentative de putsch menée par des assaillants dans la nuit du 24 au 25 novembre au quartier général de l'armée. L'opposant Delphine Neves a de son côté accusé le pouvoir en place d'avoir commandité la tentative de coup d'État et a dénoncé un simulacre destiné à le faire éliminer. Le gouvernement a ordonné la semaine dernière une enquête sur des actes cruels et inhumains présumés commis par des militaires contre des hommes accusés par le Premier ministre d'avoir tenté de mener ce coup d'État.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Iran, l'ex-président réformateur Mohamed Khatami a salué ce qu'il qualifie de beau message des manifestants près de 3 mois après le début du mouvement de contestation déclenché par la mort de Mahsa Amini. Dans la même veine, Badri Hosseini Khamenei, la sœur du guide suprême iranien, condamne dans une lettre son règne et demande aux gardiens de la révolution de désarmer. Les précisions de John Lyndon.
À propos du slogan phare du mouvement « Femme, vie, liberté », Mohamed Khatami a salué un beau message vers un avenir meilleur dans un communiqué diffusé à l'occasion de la journée des étudiants célébrée ce mercredi. L'Iran est secoué par une vague de protestations depuis la mort le 16 septembre de Mahsa Amini, une kurde iranienne de 22 ans, après son arrestation par la police des mœurs pour une violation présumée au code vestimentaire obligeant les femmes à porter le voile. Des étudiants à travers le pays participent à ce mouvement qui a gagné les universités, théâtre de manifestations et de heurts. Aujourd'hui âgé de 79 ans, Khatami a été président de 1997 à 2005 avant d'être réduit au silence par le pouvoir. Une sœur du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a de son côté condamné la répression dans tout le pays et a demandé aux très redoutés gardiens de la révolution de déposer les armes, selon une lettre publiée par son fils basé en France. « Je pense, dit-elle, qu'il est maintenant approprié de déclarer que je m'oppose aux actions de mon frère et j'exprime ma sympathie à toutes les mères qui pleurent les crimes de la République islamique depuis l'époque de Khomeini jusqu'à l'heure actuelle. »
Ici aux États-Unis, les démocrates confortent leur majorité au Sénat avec la victoire de Raphaël Warnock en Géorgie, une victoire immédiatement saluée par le président américain Joe Biden. Abdourahman Dia.
Ce soir, les électeurs de Géorgie se sont mobilisés pour notre démocratie, ont rejeté l'ultra-magaïsme et, le plus important, ils ont renvoyé au Sénat un nom bien, a déclaré Joe Biden en référence au slogan de son prédécesseur Donald Trump « Make America Great Again ». Le sénateur démocrate Raphaël Warnock était opposé au républicain Herschel Walker pour le dernier acte de ses élections de mi-mandat. Les deux hommes s'étaient déjà affrontés en novembre et un deuxième tour avait dû être organisé pour les départager. Cette victoire ne change pas l'équilibre des pouvoirs au Congrès américain. Les démocrates s'étaient déjà assurés de garder le contrôle du Sénat à l'issue du premier tour des législatives en novembre. Les républicains ont quant à eux repris la Chambre, mais avec une majorité bien plus courte qu'espérée. Mais ce nouveau siège donne des coudées plus franches au parti de Joe Biden, qui a gouverné ces 2 dernières années avec une majorité tenue 50 sièges sur 100. Il leur permettra, entre autres, d'exercer une plus grande influence dans des commissions parlementaires essentielles.
Le président russe Vladimir Poutine a laissé entendre aujourd'hui que la Russie n'utiliserait pas l'arme nucléaire en premier, mais uniquement en réponse à une éventuelle frappe ennemie de ce type sur son territoire. La Russie a par ailleurs déployé en Ukraine près de la moitié des hommes recrutés lors de la mobilisation partielle des réservistes, soit environ 150 000 soldats. Et puis le président chinois Xi Jinping est arrivé à Riyad ce mercredi pour des rencontres avec des dirigeants arabes. Cette visite de 3 jours est le 3e voyage à l'étranger de M. Xi depuis le début de la pandémie de COVID en 2020 et son premier voyage en Arabie Saoudite depuis 2016. Gardez vos sièges dans un instant, la partie magazine de cette session d'information.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Après la clôture hier mardi de la troisième session des pourparlers de Nairobi entre le gouvernement congolais et les groupes armés actifs dans l'est de la RDC, le dépôt des armes ne sera peut-être pas observé par ces groupes qui se disent déterminés à assurer la défense de leur patrie contre des agressions extérieures. Pour sa part, la rébellion du M23 se dit prête à se retirer des zones qu'elle occupe à certaines conditions. Le reportage de Zanem Neti Zaidi, notre correspondant à Goma.
Les assises de Nairobi sont terminées ce mardi. Selon les communiqués finaux, aucun groupe armé n'a déclaré sa volonté d'abandonner définitivement sa lutte. Jean-Claude Mbitse est le président du collectif de mouvement pour les changements, force de défense du peuple.
Nous avons dit aux facilitateurs et à tous les participants que nous n'étions pas disposés à déposer les armes dans le format du PDDRC. Nous voudrions plutôt légaliser le port de ces armes, que le gouvernement trouve un mécanisme d'encadrer cette jeunesse qui est disposée à défendre la patrie pour se assurer une fois pour toutes que cette agression ne reviendra plus.
Il a également été recommandé dans les communiqués finaux au gouvernement rwandais, ougandais et burundais d'entamer des dialogues avec les groupes armés actifs dans l'est de la RDC comme les FDLR, les rebelles hutus rwandais, les rebelles EDF venus d'Ouganda et les rebelles burundais du Red Tabara. Pour Josué Walaï, activiste des droits humains congolais, l'espoir n'est pas permis quant à l'application de cette recommandation par les concernés.
Croire que ces pays vont dialoguer avec leurs fils, c'est faux, parce que ces pays profitent de la crise qui est au Congo. Pour eux, mettre fin à l'insécurité ici à l'est du Congo, c'est un manque à gagner.
Pendant la clôture de la session de Nairobi, la rébellion du M23, qui n'y a pas participé, a déclaré à travers un communiqué être prête à amorcer son désengagement et son retrait de toutes les zones qu'elle a conquises. Mais dans un meeting à Rutshuru Centre ce vendredi, Willy Ngoma, son porte-parole militaire, conditionne ses désengagements par un dialogue.
Nous acceptons de partir. D'ailleurs, j'ai déjà emballé toutes mes affaires, moi. Nous sommes prêts. Mais à qui allons-nous laisser nos entités conquises? Au FDLR pour qu'ils viennent tuer nos frères? Nous avons dit ceci aux facilitateurs et aux médiateurs. Si deux personnes se battent, vous ne devez pas écouter l'un et ignorer l'autre. Mettons-nous sur la table, prêtez-nous oreilles, et si nous trouvons des compromis, nous sommes prêts à déplier bagages.
Mais pour le député national du Nord Kivu, Hubert Furuguta, ces rebelles déjà qualifiés de terroristes par le gouvernement congolais doivent quitter le pays sans condition.
Le M23 a été déclaré mouvement terroriste par le gouvernement de la République démocratique du Congo et reconnu comme tel par certaines personnalités très crédibles auprès des Nations Unies. Si le M23 se retirait, que ce soit un retrait effectif, total et sans condition.
Jusque ce soir, les rebelles du M23 gardent leur position dans les territoires de Rutshuru. Pendant la journée, ils ont libéré des dizaines de véhicules qui restaient bloqués à Kiwanja pour regagner la ville de Goma. Zanem Neti Zaidi, à Goma, pour VOA Afrique.
Vous l'avez entendu, le M23 a dit être prêt à commencer à se désengager et se retirer des zones sous son contrôle, mais demande d'abord à discuter des modalités avec le médiateur et le facilitateur dans la crise. Edi Sangwa a joint dans le territoire de Rutshuru le major Willy Ngoma, porte-parole militaire du M23.
Nous sommes prêts pour le désengagement, pour tout, pour tout ce que vous voulez. Nous sommes tellement prêts à cela. Mais certainement, nous avons demandé que nous puissions causer avec les facilitateurs et avec le médiateur. D'autant plus qu'il y a des préalables qu'on puisse quitter. Qu'ils nous écoutent aussi, puisqu'ils ont écouté le gouvernement, mais ils ne nous ont pas écoutés. Mais nous sommes tellement prêts qu'ils puissent nous écouter et... Pour le désengagement, nous sommes prêts à le faire, messieurs.
Mais qu'est-ce qui a changé? Parce qu'il y a quelques temps, vous disiez, vous posez la question, vous désengagez, vous retirez pour aller où? Qu'est-ce qui a changé?
Non, mais ça n'a rien changé. Peut-être que c'est votre entendement que vous avez un peu de superflu là-dessus. Mais nous avons dit ceci clairement, que nous allons... C'est là où il y a des modalités que nous avons dit, j'ai dit tout à l'heure, il est quand même, je l'ai dit. C'est-à-dire, il y a des modalités, nous allons nous demander, mais nous allons nous engager, bien sûr, mais on doit aller où? Nous allons y aller avec nos familles, puisque nos familles sont déjà ici, ils ont fui là où On était en train de les turbiner, de les maltraiter, de manger même leur chair humaine. Ils sont avec nous ici. Mais nous allons nous engager pour laisser l'endroit chez qui? Nous allons laisser l'espace, c'est le F de l'heure qui tue, puisqu'il y a maintenant le F de l'heure, Codeco, Nyatura Maïmaï. On doit laisser cet endroit qui puisse massacrer encore nos frères et nos sœurs. C'est là où nous avons dit qu'il serait mieux que nous puissions discuter cela. Mais quant à des engagements, nous sommes prêts pour le faire. Eh bien, nous sommes prêts même pour l'évacuation, il n'y a pas un problème. Mais on doit discuter au préalable entre nous. On doit se déboutonner, on doit trouver un modus vivendi.
La troisième phase du dialogue de Nairobi vient juste de se terminer et votre démarche vous l'amenez en marge de travaux de Nairobi et de Luanda.
Nous avons dit, nous avons tellement, même le président Bertrand Bisimwa, il avait tellement m'appelé là, il a dit ceci. Mais nous avons remercié même ce chef d'État qui sont là pour chercher la paix à l'aide de la République du Congo. Comme nous, les 23, nous voulons qu'il y ait l'issue pacifique à la crise. Nous les remercions sincèrement. Mais il y a des préalables que nous allons discuter entre nous. Donc c'est ça, là où les problèmes, nous avons demandé qu'on discute avec le président Uhuru Kenyatta, non, le président honoraire, et le président en fonction, M. João Lourenço de l'Angola, qu'on discute, qu'on trouve un modus operandi afin que nous puissions évacuer, faire tout. Mais nous sommes prêts pour le désengagement, nous sommes tellement prêts, messieurs.
Le gouvernement a posé comme condition des négociations que vous observiez les cessez-le-feu et que vous vous retiriez des endroits sous votre contrôle. Est-ce que ça ne veut pas dire que vous rentriez au niveau de vos campements où vous étiez, en Ouganda et au Rwanda?
Extrêmement grave, ces propos. C'est tellement des propos tellement graves. D'autant plus qu'ils nous traitent comme les Rwandais. Mais ils savent. Nous n'avons aucune relation avec les Rwandais. Les Rwandais ne nous aident même pas avec une aiguille. Ils le savent. Ils ont notre effectif. Ils nous connaissent parfaitement bien. Moi qui vous parle, j'ai gardé son père, le poète.
Major Willy Ngoma, porte-parole militaire du M23.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
En Côte d'Ivoire, le gouvernement a opté pour la couverture maladie universelle. Il veut garantir le déploiement complet du système de couverture sociale au profit des populations. Mais l'utilisation de la CMU est-elle effective sur le terrain? Le reportage de Delphine Boïs, notre correspondante à Abidjan.
Dans la commune de Yopougon, la pharmacie de Trois Ponts, en face de l'hôpital général, Dr César Kofi, responsable de la pharmacie, affirme que les assurés à la CMU bénéficient de réductions sur frais de médicaments.
Nous avons signé un accord cadre qui engage l'ensemble de la profession des pharmacies de Côte d'Ivoire pour la dispensation des médicaments de la CMU. Le client vient avec une carte qu'il a obtenue après son enrôlement. Le client doit être à jour de ses cotisations, conformément au panier de soins.
Un peu plus loin, à la pharmacie Coudouce de Port-Boué-Dieu, de la même commune, les clients assurés à la CMU ont pu acquérir leurs médicaments sans difficulté, car à jour de leurs cotisations. Youssouf Diaby, chauffeur des taxis communaux, appelé Woro Woro.
Depuis l'an passé jusqu'à aujourd'hui, là, il paye la cotisation. Je n'ai jamais manqué aussi de payer la cotisation. C'est 1000 francs, on ne paye pas moi. C'est 10 810 francs, je devrais payer, mais payer 3250. Je demande à tous mes collègues supérieurs de Aurora de s'enrouler pour bénéficier de la carte de CMU.
Beaucoup à Soumou, face aux préjugés, a décidé de tester sa carte CMU.
C'est pour la première fois, c'était un test que je voulais faire. Parce que bon, on dit chaque fois, hein, bon, ça ne passe pas, ça ne passe pas. Bon, c'est effectif, hein. C'est d'encourager les autres à le faire.
Innocent CI, enseignant, a lui aussi acheté ses médicaments à l'aide de sa carte CMU.
J'arrive en tout cas à avoir les médicaments sans problème. On appelle toute la population à avoir sa carte CMU. C'est une réalité, comme on le constate. Moi, j'ai pu acheter mes médicaments.
Au terme du Conseil des ministres du 28 septembre dernier, le porte-parole du gouvernement a affirmé que la preuve de l'enrôlement par la carte de la CMU et à défaut le récépissé doit être présentée pour 8 opérations administratives, dont les concours et le retrait du permis de conduire. Une décision que ne trouve pas suffisante ces personnes interrogées dans les rues d'Abidjan.
Ce n'est pas la solution pour attirer la population à souscrire à ce service-là. Il faut un moyen de mobiliser la population. La population, elle voit maintenant dans quelle mesure ça peut lui être profitable ou non. Mais la mesure d'obligation n'est pas forcément la bonne.
Les enfants qui vont aller passer examen, moi-même par exemple, ils passent un concours. Maintenant, c'est mis là où. C'est à quoi avoir examen d'un enfant ou bien pour passer concours.
Et l'obligation d'enrôlement à la CMU prend effet à compter du 1er janvier 2023. Delphine Bouise, Abidjan, VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, la force régionale de la CEDEAO pour combattre le djihadisme et pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel. À l'issue d'un sommet à Abuja, les chefs d'État ouest-africains ont annoncé que les chefs militaires des pays membres se réuniront le mois prochain afin de discuter des modalités de la mise en place de cette force dans une région minée par le terrorisme et les coups d'État. Cette force régionale est-elle la réponse à l'insécurité et l'instabilité institutionnelle en Afrique de l'Ouest? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche.
Retour sur la victoire du démocrate Raphaël Warnock en Géorgie, qui permettra aux démocrates de consolider leur majorité au Sénat américain. Une victoire immédiatement saluée par le président américain Joe Biden, dont le parti aura une plus grande marge de manœuvre dans des commissions parlementaires essentielles comme la commission judiciaire qui confirme les juges fédéraux. Pour une analyse, Abdourahmane Dia a joint à Saint-Louis Jean-Germain Gros, professeur de sciences politiques à l'Université du Missouri.
Bon, cette victoire est très importante pour au moins deux raisons. Premièrement, les démocrates ont un sénateur de plus au Sénat. Donc ça veut dire qu'ils ont plus de liberté de légiférer. C'est pas nécessaire non plus de permettre aux sénateurs de la Virginie Ouest, West Virginia, et aux sénateurs de l'Arizona, de tenir le Sénat en otage. La deuxième raison, c'est que Warnock est un sénateur de la Géorgie, donc ce qu'on appelle du Deep South. Ça veut dire que l'hégémonie des républicains dans le sud des États-Unis est en train de dissiper.
Le président Joe Biden n'a pas perdu de temps pour saluer cette victoire. Et les deux prochaines années seront-elles moins difficiles pour son agenda, même si les républicains contrôlent la Chambre?
Ce sera un peu plus difficile qu'avant, mais je pense qu'il y aura quand même des occasions où M. Biden pourrait avoir des victoires. C'est-à-dire, les républicains ne vont pas tous décider de faire obstruction à son agenda. Pour leur propre bien-être, ils doivent nécessairement coopérer pour démontrer au peuple américain qu'ils sont responsables.
Donald Trump avait soutenu Herschel Walker, le candidat républicain. Beaucoup voient dans ses résultats un camouflet pour l'ancien président qui a déclaré sa candidature déjà pour 2024. Comment est-ce que vous interprétez politiquement ces résultats de la Géorgie concernant Donald Trump, l'ancien président?
Bon, les résultats de la Géorgie dans d'autres États, tels que la Pennsylvanie, eh bien, je crois, sont tout à fait désastreux pour M. Trump. Donc, je ne pense même pas qu'il sera le candidat des Républicains en 2024.
Et justement, quel peut être l'impact des résultats de la Géorgie sur les élections de 2024?
2 ans, c'est presque une éternité en politique. Donc, il est toujours dangereux de faire des prognostications. Pour les démocrates, bon, les démocrates ont une bonne chance, n'est-ce pas, encore une fois, de gagner la Géorgie lors des élections de 2024. La Géorgie n'est plus, disons, une bastion républicaine.
C'était le professeur Jean-Germain Gros de l'Université de Missouri. Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde Georges Léonard Sagnot. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.